Chapitre 10. Entre Paris et Londres. Antonin Eudeline, London. Par les lettres que vous recevez de vos parents, mon cher Antonin, et les journaux qui vous arrivent de France, vous savez maintenant pourquoi votre amie Sophia a passé des mois sans vous répondre. Quant à mon aventure, la voici, aussi courte que possible pour qu'elle ne vous ennuie pas. Donc, lorsque vous êtes parti pour l'Angleterre, je venais de m'installer sur la rive gauche, en face de Bercy, dans les restes d'un vieil hôtel Louis XV, au fronton enrubanné, perdu au milieu d'usines enfumées et de sordides maisons ouvrières, longeant un immense quai, tout noir de grenailles de fer et de charbon. Je comptais y rester jusqu'au jour où l'affaire du boulevard Beaumarchais serait oubliée, classée, et où mon grand sauvage de Lupignac pourrait sortir de Paris sans danger. Pour le moment, il fallait que le camarade se tînt tranquille. Au lendemain de son coup, il s'était terré dans une soupente de la rue Pascal, près de l'observatoire, en pleine petite Russie. Je ne l'y trouvais pas en sûreté, persuadé que la police commencerait par là ses recherches. Heureusement que, sur le quai où je logeais, à quelques pas de mon ancienne et seigneuriale petite maison, il y avait un chantier de bois appartenant à une vieille auvergnate aux façons de grande dame, dont je soignais la petite fille, atteinte d'une amorose presque incurable. Car, ai-je besoin de vous dire, mon ami, qu'en attendant mon départ pour Calcutta, j'avais ouvert chez moi un dispensaire où les maladies d'enfants les plus variées me passaient par les mains chaque jour? Sans avouer à ma voisine qui était Lupignac, j'obtins qu'elle le prendrait dans son chantier comme veilleur de nuit, chargé surtout, quand un train passait sur le pont du chemin de fer de ceinture, d'empêcher que des braises, des étincelles envolées de la machine, ne mettent le feu aux piles de bois. On ne se figure pas d'existence plus complètement heureuse que celle de ce frénétique, à la fois rêveur et homme d'action, errant la nuit dans ce vaste chantier, aux allées d'austères alignées et symétriques comme des jardins à la française, avec des bosquets, des clairières, de grands morceaux de ciel chamarrés d'étoiles qui se découpaient aux angles durs et sombres des quinconces. Le jour, il ne quittait pas sa cabane roulante, sorte de niche à chiens ou à bergers, éclairée par deux hublots, meublée d'un râtelier pour ses habits, d'une planche pour ses livres, astronomie et métaphysique, et d'une étroite couchette sur laquelle il songeait et lisait, encore plus qu'il ne lui arrivait de dormir. J'allais le voir souvent, et nous avons passé bien des heures, assis au bord de sa paillasse, à causer, à discuter sur ce droit au meurtre, ce droit de haute justice que s'accordent les révolutionnaires, et qui me semble, à moi, souverainement monstrueux. Il ne supportait pas d'objection. La bouche grosse de colère, il me criait, en avançant vers moi une lippe de scorbutique. De Jarine est un méchant, une brute. Je ne l'ai tué qu'une fois. Lui, il avait arraché la vie d'une centaine d'êtres. Et si je me permettais une réponse, il faisait des bonds à renverser la cabane. Le malheur est qu'il ne s'en tint pas à mes visites, qu'il voulut venir chez moi, voir défiler, devant mon fauteuil à consultation, ce peuple de Paris, si vif et pittoresque dans l'expression de sa misère. Déguisé d'une perruque et d'une paire de lunettes qui lui donnaient la physionomie d'un confrère, il s'asseyait dans un coin de mon cabinet, principalement les jours où M. Alcide, votre délicieux communard, m'amenait son petit garçon. À propos, vous savez que je vais le remettre sur pied, ce pauvre gosse. Sa maladie n'a plus de mystère pour moi. C'est un enfant de vaincu, né de cette anémie morale, de cette peur nerveuse, rapportée par le père de ses 10 ans de Nouméa, et qui le fait pâlir devant le képi d'un sergot. Le petit avait la même peur, la même honte de l'existence. Il vivra pourtant. J'y ai mis le fer, j'y ai mis le feu à ce malheureux petit corps déjeté. Je lui ai donné de mon sang et de ma force. Tu marcheras, petit matin, ou tu diras pourquoi. Pendant ce temps, Lupignac se faisait raconter par le père Alcide ses chasses au canac, dans la brousse, avec le commandant Rivière, et la chasse non moins féroce que les marsouins leur donnaient à lui et à quelques autres, à travers les tombes du père Lachaise, éclairées de rares lanternes cette nuit de mai, la dernière de la commune, où les roulades des rossignols dans les cyprès du cimetière alternaient avec la fusillade et le crépitement des mitrailleuses. Le petit infirme les adorait aussi, ces aventures héroïques auxquelles son père, faubourien amusant, excellent metteur en scène, donnait une survie extraordinaire en imitant la vibration des balles avec ses lèvres, les feux des pelotons du claquement de ses gros doigts et le battement d'ailes de l'obus quand il arrive, oiseau blessé à bout de souffle. Parfois, l'histoire n'était pas finie. On l'achevait en sortant ensemble au bord de l'eau, le petit dans sa voiture, les yeux brillants, la tête sur son coude. C'est ainsi que mon pauvre Lupniak s'est fait pincer un soir par la police. Et je n'ai rien su que 2 jours après, quand la marchande de bois est venue tout en peine s'informer de son veilleur de nuit qu'elle n'avait plus revu. J'allais me mettre en recherche, moi aussi. Tout à coup m'arriva, sous l'aspect d'une inoffensive circulaire, une convocation à me présenter le jour même au palais de justice, dans le cabinet du juge d'instruction. J'ai trouvé là un homme encore jeune, bien qu'il essayât de se vieillir par une antique calotte de velours et des intentions de finasserie bridant et ridant le visage le plus plat, le moins significatif. Comme je me refusais à avouer toute complicité avec Lupniak, qu'il m'eût jamais parlé de ses projets de vengeance et de meurtre, ce juge pourtant voulut me faire dire et signer des abominations de cet être que j'aime, que je sais vaillant et bon, n'ayant de sa vie tiré que sur des bêtes fauves, détruit que des espèces nuisibles. Pensez de quel cri de révolte je l'ai accueilli, et si je me suis gêné pour décrier le bourreau féroce, indigne de pitié, qu'était ce Dejarine, l'ancien ministre de la police russe. Devant mon indignation, la bouche du juge s'est amincie. Il a fait signe à son greffier et m'a dit, en me montrant le garde de Paris gigantesque qui venait d'entrer, « Je regrette, mademoiselle, mais je suis obligé de vous garder à la disposition de la justice. » J'y suis resté plusieurs semaines, au secret le plus absolu, dans une cellule de la conciergerie où personne ne venait me voir, où l'on me passait mes repas par un guichet de léproserie. Ma seule préoccupation durant ces longues journées, mes petits malades dont les mines dolentes, les gestes d'infirmes me hantaient, se pressaient autour de mon lit, sitôt le couvre-feu sonnait. C'est qu'en vérité, mon petit Tonin, vous ne vous figurez pas ce que ces enfants sont dans ma vie. J'étais née maman, une mère gigogne. Pour avoir des petits, mais j'en aurais volé. Vous me direz qu'il eût été plus simple de me marier. Seulement, je suis trop laide, qui donc m'aurait épousée? Ça a été le chagrin de mon existence, non pas un chagrin de femme, une blessure de vanité, rien que cette pensée. Je n'aurai jamais d'enfant. Alors, ne pouvant être mère comme toutes les autres, je me dis que je le serai plus que toutes, que j'aurai des centaines de petits que je soignerai, que je dorloterai, que je bercerai dans mes bras des heures entières, avec leurs petites bouches sans dents en ventouse contre mes joues, de pauvres petits douloureux que j'aimerais à la passion. Car est-il rien de prenant, d'attendrissant, comme un petit être qui souffre sans pouvoir dire ce qu'il a? Justement, je venais de finir ma médecine. Réconcilié avec mon père, j'avais de l'argent, assez d'argent pour fonder mon œuvre des petits malades. Et dès lors, ce fut fini de mes peines, de mes inquiétudes. Je ne me sentis plus jamais malheureuse qu'à la conciergerie, privée de toute ma petite famille des gros temps. Combien de fois, la nuit, ai-je cru entendre cette petite voix suppliante ? « Dis, papa Alcide, raconte-moi la bataille du père Lachaise !» Et l'ancien communard, imitant les feux de salve avec le battement du plat de ses mains sur sa tête crépue. Enfin, un après-midi, la porte de mon cachot s'est ouverte, quelqu'un m'a dit « Venez !» et, par des couloirs, des escaliers interminables, m'a reconduite dans le cabinet où j'avais été interrogée. L'homme à la calotte de velours m'a demandé, mais cette fois sans dureté ni arrogance, si la solitude ne m'avait pas rafraîchi la mémoire. J'ai eu un geste évasif. Le juge n'a pas insisté et s'est contenté de me dire en souriant « L'instruction n'est pas de force avec vous, mademoiselle. Vous avez de trop belles connaissances. » Il me regardait d'un air langoureux, avec des yeux que les pauvres laiderons comme moi ne rencontrent pas souvent. J'ai cru que ce jeune ambitieux allait me demander ma main en faveur de mes hautes relations. Mais d'où me tombait cette mystérieuse bonne fortune? Je n'osais m'en informer, et comme en rêve, je vis signer mon lever d'écrou. Quelle joie d'aspirer l'air libre et de reprendre, rentrer chez moi, mes consultations à tout mon petit hospice ambulant. Il n'y a que ma marchande de bois qui ne m'a plus amené sa fille. Elle m'en voulait trop de ce veilleur de nuit, de cette espèce d'astrologue dont la cabane était pleine de livres de magie que ces messieurs de la préfecture étaient venus saisir. Mais qui donc les avait prévenus? Voilà ce que j'aurais voulu savoir. Moi qui croyais l'avoir si bien défendue, préservée, jusqu'à rompre tout rapport avec nos petits Russiens du Panthéon et de l'Observatoire. Même Geneviève Isoard, que je ne voyais plus, non par méfiance de cette exquise et brave créature, mais je savais qu'un sentiment d'une violence excessive s'était emparé d'elle et qu'elle ne s'appartenait plus. Ah, mon petit Tonin, Dieu nous préserve de l'amour, c'est le plus dangereux de tous les vins qui saoulent. Et s'il est vrai, comme je l'ai entendu soutenir, que les jeunes gens de votre âge, de votre équipe, ne pensent plus à la femme, tant mieux. Vous irez plus vite et plus droit au but que vous aurez visé. À propos de femme, il m'arriva, voilà 2 jours, une singulière visite. La consultation venait de finir. J'ouvrais mes fenêtres pour chasser cette odeur de gésine et de misère, de fourmilière et de lait suri, que m'apporte ma triste clientèle, et je fumais une cigarette du pays en laissant ma pensée suivre au fil de l'eau les chalands qui descendaient la Seine dans les rougeurs du couchant. Entre une belle dame, une rousse opulente de forme, de toilette, à l'encolure de forte chanteuse, et malgré l'intonation maniérée, la peinture des yeux et des joues, surtout le visage, un air de naturel et de douceur. Elle me parle de ma fondation, des auxiliaires que je serais disposée à prendre et dans quelles conditions. C'était pour une de ses amies, une victime du monde, brisée, fourbue à force de ne rien faire, honteuse de l'égoïsme et de la stérilité de son existence, une morte qui voulait revivre. S'agissait-il vraiment de cette amie ou d'elle-même ? On sentait dans ses paroles un dégoût, un soulèvement de tous les plaisirs, de tous les luxes bus à même, qui m'a donné une étrange idée de la société parisienne et m'a laissé une grande impression de tristesse. Elle s'est retirée en m'annonçant la visite très prochaine de son amie et me remettant son adresse personnelle. Madame Valfond, le mercredi, Quai d'Orsay. Sans doute une des belles connaissances que m'enviait mon juge d'instruction. Cela ne me renseignait toujours pas sur ce que j'étais curieuse de savoir, le nom de Judas qui avait livré Lupniac. Monsieur Alcide, confident de mes soupçons, s'était mis en quête lui aussi. Mais plus tragique et compliqué qu'un roman de Gaboriau, il roulait des yeux, parlait à voix basse, prenait des empreintes de pas, de mains, par terre, sur les rampes d'escalier, me donnait des rendez-vous la nuit sous des ponts et n'avait jamais rien à m'apprendre. Quant aux camarades de la petite Russie, tous unanimes pour accuser Mauglas, ils prétendaient que, cassés au gage à la suite de la dénonciation en pleine chambre du ministre des Affaires étrangères, ils n'avaient trouvé qu'un moyen de rentrer en grâce avec Pétersbourg, découvrir et faire arrêter le meurtrier du général. D'ailleurs, m'affirmait-il, s'il le faut, pour vous convaincre, nous vous l'amènerons, le traître, ficelé comme un saucisson, et nous le forcerons à s'accuser devant vous. Je voulais douter malgré tout, subjugué par la belle intelligence de cet homme, que je ne pouvais croire avili, fourvoyé à ce point-là. Des jours, des semaines se passent. Viennent les assises, l'affaire de Jarine, la tranquille façon dont Lupniac, après avoir tout nié à l'instruction pour donner à sa complice le temps de se mettre à l'abri, s'est déclaré coupable devant le tribunal et prêt à recommencer sa chasse au grand carnassier s'il échappe jamais à sa déportation perpétuelle. Une semaine ou deux après le procès, je recevais une invitation de la société L'Abeille, 4 rue de Rivoli, on entre par la cour. Le nom de cette société parisienne m'était absolument inconnu, mais celui de Déhamoff, jeté en travers de la carte, me rappela que nos amis petits Russiens, afin de dérouter les surveillances, louaient de temps en temps pour un soir à de jeunes employés du phare de la Bastille et du bazar de l'Hôtel de Ville, le sous-sol casematé d'une brasserie où ces jeunes gens s'exerçaient à sonner de la trompe et à tirer à la carabine. Donc, le samedi soir, à l'heure dite, j'entrais dans la cour du numéro 4, une cour spacieuse, dallée par endroits de verre lumineux. Sous le porche éclairé par le gaz, une plaque de marbre noir avec ce mot « Abeille » en lettres d'or, et au-dessous, une flèche m'indiquant la porte basse et les trois escaliers en colimaçon qui descendaient dans le sous-sol. Le long des murs, stuqués et voûtés d'une cave en longueur, où flambaient des becs de gaz, étaient pendus des cartons de tir, les règlements de la société, des cornets à poudre, des corps de chasse. Au-dessous, deux rangées de bancs et toute une assistance d'hommes et de femmes, dont les visages fiévreux, intelligents, m'étaient connus pour la plupart et m'accueillaient de clignements d'yeux, de petits saluts souriants. Au fond, devant des plaques de tir, la salle s'élargissait, plus lumineuse, et sur trois chaises séparées de nous par une longue table chargée de pistolets, de carabines, se tenaient Déamov et deux autres petits Russiens, durs comme des juges, silencieux comme des bourreaux. À peine assis à ma place, il se fit un grand mouvement vers l'entrée, des cris, une bousculade, toute la salle debout, et l'on vit paraître sans chapeau, les cheveux et le linge en désordre, Mauglas, ligoté de la tête aux pieds, roulé, poussé, porté par trois ou quatre solides garçons, aux souplesses de jeunes fauves, et derrière eux, une longue fille mince, les yeux pâles, le sourire méchant, tout en blanc comme une mariée. C'était elle la morceuse. Et dès en entrant, quand il eut compris que tout appel serait inutile sous le blindage de ses voûtes, comme toute résistance en face de cette foule, la première parole du policier fut pour la jolie créature qu'il avait engluée à ses chatteries. « Voilà où peut conduire une vanité des crivassiers, » dit-il en s'inclinant. « Deux lettres me complimentant sur mon dernier feuilleton de musique ont suffi pour me pincer. Je vous avoue pourtant, mademoiselle, que je n'étais pas sans crainte en venant à notre rendez-vous, et sitôt la porte fermée sur la rue, quand votre longue main moite a pris la mienne, « mais on est français et panachard, n'est-ce pas, ma petite ? Vous devez comprendre cela, vous qui êtes polonaise, de cette Pologne en trois morceaux, que nous serons peut-être demain. » Puis, brusquement tourné vers l'assemblée, et sur un ton de gouaille, « que puis-je faire pour vous servir, mes seigneurs ?» Sans lui répondre, Déamov et les deux autres, là-bas au fond, examinaient un paquet de lettres trouvées sur ce malheureux, étalés à même la table et qu'ils dépouillaient sans se hâter. Horrible ce silence actif! L'homme, debout au milieu de la salle, s'efforçait de tenir la tête droite et d'affermir ses jambes qui tremblaient sous la haine de tous ses regards. Moi, mon cher Antonin, je me rappelais l'arbre de la liberté à Morangis, l'arrivée des Parisiens le samedi soir et les vieux Mauglas, le père et la mère, venant attendre leur fils, ce bon, ce courageux enfant qui était toute leur vie. Et c'était le même qui faisait ce sinistre métier dont il vivait déjà si grassement à cette époque, le même Mauglas qui avait livré notre ami. Ah, quand Déamov se leva pour lui dire ce dont on l'accusait, je fermais les yeux de peur de voir ce triste visage se décomposer sous l'angoisse ou grimacer quelques mensonges. Mais l'accent vaillant et sincère de sa réplique me força à le regarder. Tranquille, les mains dans les poches de son éternelle jaquette de velours, sur sa face rougeaude et violente que le gaz fouettait brutalement, il n'y avait trace de peur ni de fourberie. « Pourquoi, dit-il, me donnerais-je la peine de vous tromper ? Je suis dans vos mains, je n'ai pas l'espoir de m'en tirer sans de la casse. Mais ce n'est pas une raison pour que je m'accuse à faux. « Je ne suis pour rien dans l'arrestation de Lupniak. » Déamov. « N'avez-vous pas fait partie de la police russe à Paris comme indicateur ?» Mauglas avec le plus grand sang-froid. « J'ai été indicateur, je ne le suis plus. La mort de Dejarine m'a fait perdre ma place. » Déamov. « Vous avez écrit, supplié pour être replacé. Voici deux réponses du ministre de la police à Pétersbourg. » Mauglas. En effet, la place était bonne, j'y tenais. Le cynisme de ces paroles soulevant un grondement de colère dans la salle, il riposta par un cri, un geste indigné, et brandissant comme des haltères ses gros poings serrés et lourds. Vous m'amusez, vous autres, avec ça que la vie est commode et qu'il n'y a pas presse et bousculade au guichet de gagne-ton-pain. Est-ce que je vous demande, moi, combien vous avez de bouches à nourrir, combien d'enfants, combien de vices? Si vous aimez ce qui est bon, ce qui coûte cher, ah, je voudrais vous raconter mon existence, comment j'ai glissé dans ce fumier et tous les heureux que j'ai faits avec mon infamie. mais vous croiriez que je veux vous attendrir, et ce n'est pas mon intention. » Il nous regarda tous successivement, comme s'il nous comptait. « Ce que je cherche, combien il y en a parmi vous, autant les hommes que les femmes, qui voudraient avoir la place que j'ai perdue, qui peut-être même l'ont déjà demandée. Ah, c'est comme ça !» Il ne put finir. Tous se levaient en hurlant, prêts à se ruer sur lui. Mais je ne sais pourquoi l'idée me vint, devant cette double rangée de griffes et de crocs, qu'à ceux qui criaient, qui grinçaient le plus, sa place de policier faisait le plus envie. « Ce qui est sûr, dit un des juges en s'adressant à Mauglas, c'est que vous avez tout fait pour conserver votre profession d'indicateur. À preuve, cette lettre trouvée sur vous, d'un jeune homme à qui vous offrez la moitié de votre traitement, s'il veut aller moucharder à votre place dans les milieux où vous vous savez brûler. Plus honnête que vous, le jeune homme refuse. Le courage lui manque pour pénétrer chez ces braves gens, tromper leur confiance. Il ne saurait pas. De tous les coins de la salle, on demande « Le nom ! Le nom !» Je le connaissais, moi, ce nom. Dès l'arrivée de Mauglas, il m'était venu à l'esprit tout de suite. Et, sitôt la lettre ouverte, mon cœur étreint comme par un étau, n'avait recommencé à battre qu'à cette phrase du tribunal « Le jeune homme refuse. » « Vous entendez, mon cher Antonin, votre frère a refusé, car c'est le nom de Raymond qui était au bas de cette lettre. » J'avais bien deviné, je peux vous le dire maintenant, en vous faisant l'aveu de mon angoisse. Mais pourquoi la certitude que ce serait ce nom et pas un autre? D'abord, parce qu'à deux ou trois reprises, j'avais rencontré Raymond se promenant avec Mauglas en intime conversation. Puis, je le connais si bien, votre pauvre aîné, toujours identique à lui-même depuis son enfance, faible et vaniteux, sans volonté, sans énergie. Je l'ai vu jaloux de vous, furieux de vous voir gagner le pain de la maison, substituer votre activité, votre courage à son dérisoire droit d'aînesse. Aussi, la dernière fois que je l'aperçus au bras de ce coquin qui venait d'être dénoncé en pleine chambre, les plus basses suppositions s'emparèrent de mon esprit. C'est qu'il est dangereux, l'homme, et intelligent, et bon diagnostiqueur d'être. Connaissant le garçon et sa mollesse, il n'a pas dû s'en tenir à ce premier refus. « Pourvu, mon Dieu !» Mais nous reparlerons de cela un autre jour. Finissons-en avec mon aventure de mouchard. Le cynisme de Mauglas, son insolence, me faisait craindre un dénouement tragique. Lui-même, après un long conciliabule de Déamoff et de ses assesseurs, lorsqu'il se vit de nouveau saisi, garrotté, étendu de tout son long sur la table, eut une minute d'épouvante et, regardant tout autour, demanda, la voix changée et pâteuse, « Vous n'allez pas me saigner comme un porc, j'imagine !» Non, il s'agissait seulement de le marquer, de le tatouer en plein visage, une énorme mouche verte au milieu du front, la mouche, pour signaler son indignité, mettre les gens en méfiance partout où il se présenterait. Je n'eus pas le courage d'assister à ce supplice. Et pendant que le misérable souffrait, se débattait sous les pointes brûlantes, que les trompes sonnaient autour de lui, qu'on tirait des coups de carabine pour étouffer ses cris, je me sauvais bien vite en me bouchant les oreilles. « Je vous avais promis des nouvelles, mon petit Tonin. En voilà, je suppose. Que vous dire encore? Que j'ai rencontré votre petite sœur Dina revenant du bureau central, toujours son carton sous le bras, sa grâce écolière et pimpante. » Chère petite Cendrillon, dont la féerie subitement interrompue n'a pas altéré les yeux clairs, le teint de muguet et de rose. Elle ne l'a plus revu, son prince charmant. Sitôt transportable, il a été emmené dans l'Engadine par le père presque aussi malade que lui. N'importe, Cendrillon à la fois, elle croit en ses médailles. C'est de l'idolâtrie, dit Pierre Isoard, et je crois bien, pauvre homme, qu'en ce moment, elle ne lui serait pas inutile à elle-même, cette idolâtrie. Elle l'aiderait à porter les gros chagrins dont il sent la menace. Sa place au palais Bourbon est en danger. On le trouve gênant, ce vieux 48. Il pense tout haut et trop fort. Et si précieuse que lui soit sa petite thébaïde de Morangis, comme il appelle, bien qu'il répète sans cesse « Je suis un solitaire, moi, un sauvage, je me suffis, je n'ai besoin de personne », il n'y a pas un homme qui aime autant à causer, à voir du monde, à s'agiter, que ce vieux Marseillais en peine de canebière. Il y mourait d'ennui dans sa Thébaïde, à présent surtout que sa fille lui manque, car c'est là, sans qu'il en convienne, ce qui assombrit l'humeur de notre vieil ami, ce qui donne à son intonation quelque chose de dur et de fébrile. Son enfant lui échappe, elle n'est plus à lui, mais à ses anciennes amies, pas davantage. Tous les beaux projets que nous faisions ensemble, notre voyage dans l'Inde, un nouvel asile à fonder là-bas, dont Geneviève aurait la direction, on ne parle plus de rien. Le père a voulu proposer un mariage. Inutile. C'est qu'elle se considère comme mariée, la pauvre fille. Seulement, celui qu'elle aime ne peut pas l'épouser, et tous deux en sont réduits à une vie de subterfuges, de mensonges, qui finira, j'en ai peur, par quelque catastrophe. Je songe, mon cher petit, que vivant loin de nous tous, vous ne savez peut-être pas un mot du roman auquel je fais allusion. Mais vous connaissez M. Isoard comme moi. S'il découvrait que tous les matins, après leur déjeuner de Morangis, Geneviève court à Paris et ne revient que pour le déjeuner du lendemain, ce serait terrible. Je n'ose pas y penser. Et cependant, il me semble, quand je me trouve avec lui, à des regards en éclair, à des froncements de sourcils, il me semble que le vieux Marseillais se doute de quelque chose. Il faudrait prévenir Geneviève, mais je ne la vois jamais. Elle me fuit. Je n'ai de ses nouvelles que si j'entre une minute rue de Seine à la lampe merveilleuse. C'est ainsi que j'ai appris par la chère maman Eudeline, toujours assise à son comptoir, toujours absorbée dans les livres du vieux temps, que Raymond s'était mis à écrire et qu'il gagnait maintenant beaucoup d'argent, tellement d'argent qu'il subvenait à toutes les dépenses de la famille sans vous demander jamais rien. Pour la fermeture du magasin, par exemple, il n'avait pu vous remplacer. Petite Dina mettait les volets tous les soirs, les enlevait tous les matins, ce qui lui abîmait les ongles et lui causait des colères de jeune chat. Je vous avoue, mon ami, qu'il m'a paru extraordinaire que Raymond, tout nouveau en littérature, pût gagner tant d'argent que cela. J'ai connu peu d'hommes de lettres en Russie, pas un seul en France, mais ceux que je savais des profits du métier ne répondaient guère aux assurances de Madame Deligne. J'ai cru que sa mère s'illusionnait. Je me suis informé, ce que je pouvais faire aisément, les Alcides étant gérants de la maison qu'habite votre frère. La femme surtout, l'ancienne directrice de l'opéra comique sous la Commune, celle qui gantait à je ne sais combien de boutons de plus que l'impératrice, m'inspirait toute confiance. Je suis par elle que son locataire, sans faire la vie comme beaucoup d'auteurs, avait un train de maison, donnait à dîner deux fois la semaine, invitait des amis dans la soirée, des écrivains comme lui, tous très jeunes, mais raides et l'air sérieux. Il paraît du reste qu'ils avaient tous prodigieusement de talent et de savoir, et que, le jour où ils arriveraient à la lumière, au grand public, aucune illustration du passé ne tiendrait devant leur nom. En attendant, il y en avait un que Raymond, en le prenant par les épaules, appelait son petit Flaubert, un autre était son petit Renan. À lui, ces messieurs disaient tous « cher maître ». Mais en parlant de lui dans l'escalier, il l'appelait plus volontiers Saint-Bollard. Madame Alcide ne savait pas pourquoi. Dans sa tête, cela devait s'écrire Saint-Bollard. En outre, comme la bonne femme veillait les soirs de réception pour éteindre le gaz, elle entendait les invités, en s'en allant, débiner leur amphitryon, sa soirée, sa littérature. Ah, le pauvre Saint-Bollard! Il arriva même à un de ces petits gueux qui avait encore sa dernière bouchée entre les dents de proférer « En somme, ces dîners lui coûtent cher et personne ne sait d'où vient l'argent. » Madame Alcide suffoquait d'indignation en me racontant ses propos et elle ne se doutait guère que moi aussi je me demandais où Raymond trouvait tant de ressources. Le livre qu'il écrit, écrasé sur sa table du matin au soir, n'a pas encore paru et l'on n'avance rien sur un premier livre. Il n'est employé nulle part, il ne donne pas de leçons. Alors, vous savez sans doute à quoi vous en tenir, mon cher Antonin, et vous me trouvez bien indiscrète. Pardonnez à mon amitié. Des aventures comme celle de Mauglas sont faites pour vous troubler l'esprit. Encore un détail. Rencontrez-vous, à Londres, comme autrefois, quelques réfugiés russes? Que pense-t-on de l'arrestation de Lupniak? De loin, on juge mieux. Ici, j'en reste aux suppositions. Rien n'est plus fatigant. Votre Sophie C. Sophie Kassagnozov, Paris. Ah, mademoiselle Sophie, que votre lettre m'a fait de peine, et une peine de durée qui vient de loin. Car il y a longtemps que vous êtes injuste envers mon aîné, jusqu'à le croire déshonnête, jusqu'à supposer... Ainsi, vraiment, vous avez été heureuse d'apprendre que Raymond Eudeline, lauréat du concours général, docteur en droit, licencié S-Lettres, que Raymond Eudeline, président de l'A, s'il l'eût voulu, repoussait les offres de ce misérable Mauglas. Mais j'ai crié de colère, moi, à ce passage de votre lettre. J'ai pleuré de pitié et de honte à ces lignes qui vous ont fait plaisir. Non, mademoiselle, vous ne connaissez pas mon frère, jamais vous ne l'avez connu. Si je vous disais les sacrifices qu'il nous a faits et dont j'ai été témoin, sacrifices d'amour, d'ambition personnelle, vous le tiendriez pour un héros. Seulement, il ne se vante jamais, et des êtres aussi bons et aussi intelligents que vous, que Pierre Isoard, ont pu lui reprocher d'être resté pendant des années inférieur à sa tâche, incapable de gagner le pain de la maison. À qui la faute si le latin, le grec et la philosophie, seuls instruments qu'on lui ait mis en main, ne valent rien pour les besognes promptement utiles? Comment devenir avocat, professeur, médecin, député, quand le temps presse, qu'il faut vivre et faire vivre toute une famille? Il s'est trouvé par bonheur qu'il avait des dons littéraires, et depuis sa jeunesse. Rappelez-vous son prix de dissertation française au concours général. C'est grâce à cela qu'un des premiers éditeurs de Paris, rien que sur le plan d'un roman, d'une étude sociale très fouillée, a fait à Raymond des avances suffisantes pour lui permettre de me remplacer auprès de maman. Si l'on vous demande encore d'où vient l'argent, voilà ce que vous pourrez répondre, ma chère Sophie. Dans quelque temps, du reste, le livre sera paru, l'éditeur remboursé, et devant l'énorme succès qui s'annonce, il n'y aura plus de calomnie possible. Quant aux reproches que vous faites à mon frère, d'égoïsme, de sécheresse, son mépris de la femme, de la patrie et de tous les devoirs sociaux, ces reproches s'adressent bien moins à lui qu'à ceux de son âge et de sa profession. Je les connais par expérience, l'aîné m'ayant conduit deux ou trois fois dans un café du boulevard Saint-Michel où se réunissent les jeunes écrivains de ses amis qu'on appelle les voraces. C'est le Lyonnais Claudius Jacquin, le Claudius de notre petite Dina, qui les a ainsi baptisés, du nom que les riches soyeux de la place des Terreaux donnaient jadis aux canuts de ce formidable faubourg de la Croix-Rousse, dont ils guettaient d'en bas, avec terreur, les pentes caillouteuses, toutes vibrantes du cliquedis des navettes et du battement des métiers. Gare, tout à l'heure, si les voraces descendent. Et vraiment, après une heure passée au milieu des amis de Raymond, à les entendre éreinter leurs aînés littéraires avec cette haine envieuse, cette rage de massacrer, d'anéantir par tous les moyens possibles les hommes et les œuvres qui encombraient la route, j'ai compris ce nom de vorace. C'était à faire vomir tout ce qui se proférait là de sottises et de cruautés sous prétexte qu'ils avaient, ces jeunes, une autre conception de la vie. Fameuse leur conception. Mon père, le conseiller, cette délicieuse fripouille, susurrait à une table voisine de la mienne un petit jeune homme soigné, parfumé. Un autre en face de lui, longue tête congestionnée de pendus, aux yeux globuleux et glaireux, faisait cette confidence à quelques amis. Je viens de découvrir que ma mère fut longtemps la maîtresse de mon précepteur. Je le dirai dans mon prochain livre et je compte sur un gros effet. Enfin, trois jeunes auteurs vautraient sur un divan, tout près de moi, ne se gênaient pas pour déclarer qu'à la prochaine guerre, ils jetteraient leurs fusils dans les fossés et que rien, pas même les jugements à bref délai des cours martiales, ne les obligerait à marcher. La patrie armée, la défense nationale, il n'en fallait plus. Et ce dont je m'indignais pourtant, c'est que ces messieurs se disaient tourmentés par un besoin d'action hyperbolique et prétendaient parler au nom de la jeunesse française, ce qui est un affreux mensonge. Car la jeunesse, ce n'est pas quelques centaines de petits littérateurs ivres d'encre et de vanité, mais tous les autres. Ah, que j'en aurais dit des choses à ces jeunes voraces, si je n'étais pas le pauvre bègue infirme que vous connaissez. Mais mon frère, ce soir-là, s'est chargé de leur faire entendre, et fortement, ce qui restait dans le tremblement de mes lèvres, et vous auriez compris en l'écoutant combien il est supérieur à son entourage. À ces réunions littéraires du boulevard Saint-Michel, un mot revenait souvent que les amis de Raymond répétaient à propos de n'importe quoi, d'un détail de costume ou de mœurs, d'un usage quelconque de notre nation. C'est bien français. Comme c'est français. Cela s'accompagnait de mouvements d'épaules, de sourires, de pitié. À distance, et surtout de ce coin d'Angleterre que j'habite depuis quelques mois, cette façon de mépriser son pays, de le mettre au-dessous de tout pour se donner à soi-même un air de supériorité, me semble enfantine et ridicule. Ici, quand ils disent d'une chose qu'elle est bien anglaise, c'est qu'ils la mettent au point de la perfection. Leurs moindres coutumes, leurs plus petites gloires, leur sont vénérables et sacrées, et selon la parole d'un de leurs poètes, sur le sol anglo-saxon, tout grand homme en tombant est sûr presque aussitôt de se relever en bronze ou en marbre. Pensez à Westminster. Quelle dérision que notre panthéon, où nous arrivons à caser péniblement deux ou trois célébrités qu'on y oublie, comparé à cette immense cathédrale dans laquelle sont enterrés, avec leurs rois et leurs reines, les artistes les plus illustres de la vieille Angleterre. Oui, supérieurs à nous, les Anglais le sont bien certainement, mais surtout par ce respect d'eux-mêmes et de leur nation. La blague est un mot qu'ils ne connaissent pas. Mon amie Sophie, je vous quitte, on m'appelle à l'atelier. Je vous en prie, ne pensez plus de mal de Raymond, et qu'à propos de lui, le nom de Mauglas ne vous vienne jamais à l'esprit. Si vous saviez, depuis votre dernière lettre, c'est comme un millier d'épingles très pointues que vous m'avez mises dans la tête et qui me blessent aussitôt que je pense à l'aîné. Antonin E.